Ou avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel, Afrique Midi, avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et Sébastien Duhamel en parlait à l'instant, le 65e anniversaire de l'indépendance à Madagascar, célébré en grande pompe. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un auditeur souhaitait justement revenir sur ce sujet. Eh bien, Athanaël, si vous nous écoutez, surtout restez près du téléphone. On vous rappelle et on fera en sorte de vous passer à l'antenne, puisque durant les 20 prochaines minutes, vous allez tous et toutes réagir à l'actualité de votre choix. Il y a plein de sujets, comme tous les vendredis d'ailleurs. Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité que vous nous prouvez tous les jours. On va commencer en parlant de la Guinée. Au bout du fil, nous avons Aguibou qui est bouleversé après l'enlèvement il y a tout juste une semaine d'un avocat, Mohamed Traoré. Il a été enlevé durant quelques heures au cours desquelles il a été tabassé, fouetté. Bonjour Aguibou.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez prendre la parole, RFI vous la donne, on vous écoute.
Oui, Juan, en fait, je suis choqué, j'ai été choqué, bouleversé par ce qui est arrivé à Mohamed Traoré. Je prends la parole aujourd'hui sur la radio internationale pour exprimer mes inquiétudes, car nous vivons un moment grave et profondément inquiétant. Juan, aujourd'hui, de réelles menaces pèsent désormais sur les citoyens guinéens qui osent critiquer et dénoncer les maux et dérives politiques, économiques et sociales de la transition militaire guinéenne. L'enlèvement, la torture, l'humiliation et la châtie dont a été victime l'avocat et ancien bâtonnier Maître Mohamed Traoré est un message clair qui est destiné à nous autres, nous qui osons prendre la parole, nous qui critiquons les dérives de la junte. Ceux qui ont fait ça à Maître utilisent la violence comme moyen pour dissuader, punir et intimider toute voix dissidente.
C'était la première fois d'ailleurs depuis le début de la transition qu'un avocat était ciblé par des hommes dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui sont visiblement. Le Premier ministre hier soir était à la télévision nationale guinéenne, il a été interrogé sur ces événements, lui-même a condamné, il a condamné fermement ce qui s'est passé, il a dit que c'était la République qui avait été poignardée à travers l'acte commis contre l'avocat Mohamed Traoré. Que peut faire aujourd'hui le Premier ministre Baori face à de tels enlèvements qui se multiplient?
Le Premier ministre, à mon avis, sa marge de manœuvre est très réduite. Le Premier ministre s'est mis en porte-à-faux avec ses convictions. Avant, c'était quelqu'un qui défendait les droits de l'homme, qui était un citoyen très actif pour la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, nous assistons à sa gouvernance. Il est Premier ministre de la République de Guinée. Et pendant la transition dans laquelle lui-même il est acteur principal, nous assistons à ses dérives. Juan, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut rien dire sauf dénoncer. Et ses dénonciations même sont pesées. Et vous voyez, Maître a été enlevé. Les faits se sont déroulés il y a de cela 72 heures, voire même...
Les faits se sont déroulés il y a une semaine quasiment. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier.
Et c'est hier qu'il a pris la parole.
Et c'est hier qu'il a pris la parole, effectivement.
Et oui. C'est hier qu'il a pris la parole. Ça en dit long sur les soucis du Premier ministre aujourd'hui.
Oui.
Actuellement,
en tout cas,
nous pensons que le Premier ministre est régné. Il est incapable de vraiment d'instaurer la justice, de garantir la démocratie et la liberté d'expression. Nous pensons que c'est un Premier ministre qui n'a aucun pouvoir.
Bon, en tout cas, depuis lundi et pour deux semaines, l'Ordre des avocats boycotte toutes les audiences à travers le pays pour dénoncer l'enlèvement le week-end dernier de l'avocat Mohamed Traoré. Merci infiniment à Guibou de nous avoir contactés. Bonne journée, bon courage à Conakry. Si nous parlions de la présidentielle au Cameroun, vous avez été plusieurs à nous contacter pour réagir à la candidature annoncée du désormais ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakary. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Juan.
Une candidature qui est très très commentée au Cameroun et qui vous laisse, vous, dubitatif.
Oui, il faut être dubitatif parce qu'on a l'impression que le régime renouvelle son système de conservation du pouvoir et de régénération. Parce qu'on ne peut pas avoir un ministre qui a servi un régime pendant plus de 22 ans, qui a servi tout un système, et qui, à 3 mois de la présidentielle, se lève pour dire « je réunis le système, je suis le messie, oui. Parce que voilà, il faut sauver le Cameroun ».
Bon, enfin, excusez-moi, Rodrigue, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Je replante le décor tout de même pour tous ceux qui nous écoutent hors des frontières camerounaises. Ce ministre en question, effectivement, il a appartenu au régime durant ces 3 dernières décennies. Il a été ministre des Transports, de la Communication, de l'Emploi, porte-parole du gouvernement. Il a démissionné en début de semaine. Dans la foulée, il publie une lettre de 24 pages, lettre aux Camerounais, dans laquelle il dénonce le système. Ce système est à bout de souffle, dit-il. Il appelle à une transition républicaine exemplaire. Il dit que le pays ne va pas bien. Vous n'y croyez pas, Rodrigue ?
Mais Juan Gomez, c'est très facile de le dire. Vous savez, nous sommes à un rendez-vous charnière de l'histoire de notre pays. Le président, il a plus de 90 ans. Et tous les signaux sont clairs que soit le président ne va pas se représenter, et peut-être qu'il va désigner un dauphin. Et vous savez qu'on nous a toujours longtemps fait croire que les populations du Grand Nord sont celles qui donnent la victoire au RDPC. Et donc certainement qu'il se suggérerait que le choix du dauphin ne viendrait pas du Nord. Alors le flanc du Nord dit on va se braquer et Tiroma va prendre la parole pour dire je suis un opposant, pour essayer de redéfinir les cadres, d'appeler à des négociations. Ça, c'est une option. La deuxième option, parce qu'il ne faut pas lire ça sur une lecture unilatérale, il ne faut pas faire une analyse unilatérale. Il faut essayer d'embrasser une approche complexe à partir de laquelle je mets en perspective la politique traditionnelle d'un régime qui se régénère. On a le président Kamto, qui est le porte-parole, le leader même de l'opposition depuis au moins 2013, et qui n'y va pas, qui n'était pas aux élections législatives et municipales en 2020, ce qui le disqualifie de la présidentielle. Alors il pourrait se faire investir par un autre parti, et il revient de Paris, où il a fait un meeting boum.
D'accord. Et quel rapport, excusez-moi, avec cette candidature de l'ancien ministre ?
C'est qu'il faut éparpiller les voix de l'opposition. C'est que maintenant, si on laisse le Cameroun qui en veut au régime, aller aux élections présidentielles et se ruer vers Kamto, le RDPC va confronter une véritable opposition pendant les présidentielles. Oui. Alors on nous sort tout juste l'illuminé Tiroma qui dit non, je réunis ce régime et qui est sûr d'aller prendre lui aussi grappier les voix de l'opposition.
D'accord, donc à vous entendre,
vous aurez donc Rodrigue, Tiroma et Cabral qui grappillent les voix de l'opposition et le RDPC qui lui reste fort parce qu'il aura toujours la majorité électorale.
Rodrigue, vous êtes en train de nous dire finalement que tout ça est stratégique pour éparpiller les voix de l'opposition. Plus il y aura de candidats dans l'opposition, eh bien plus les électeurs vont éparpiller leurs voix et quoi qu'il en soit, le parti au pouvoir restera, selon vous, majoritaire. Vous ne raccrochez pas, je le disais tout à l'heure, vous avez été plusieurs à nous appeler du Cameroun pour réagir à la candidature d'Issa Tiroma Bakary, candidature annoncée. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Avez-vous la même lecture que votre compatriote Rodrigue ?
Bon, on s'entend sur une seule chose, c'est une question de stratégie. Stratégie de Issa Tiroma, du ministre Issa Tiroma, de l'ex-ministre en tout cas.
Oui.
Issa Tiroma, stratégie parce que sa démission est perçue comme un positionnement personnel. Hein, parce qu'il ne faut pas ignorer que sa base électorale, c'est le Nord, donc Garoua, dont il est issu, Maroua, l'extrême Nord et puis la Damawa. Donc il se trouve que depuis quelque temps, il y a des groupes de pression qui sont mis en place et qui estiment qu'il faut une rupture complète avec le RDPC, l'élite RDPC et puis tous ceux qui, parmi les élites politiques du Grand Nord, font partie de la majorité présidentielle. Et depuis que ces groupes de pression, en l'occurrence 10 millions de nordistes, qui a été créé par un journaliste et qui est un leader d'opinion, qui est très écouté dans la partie septentrionale, a été créé, on remarque que tous ceux-là qui sont de la majorité présidentielle, de toute façon, dans le Grand Nord, sont dans un activisme particulier et ont tendance à régner leur partenariat avec le pouvoir.
Et donc, s'il fallait conclure, Joseph.
Alors, si Issa Tiroma aujourd'hui se positionne comme un opposant, c'est tout simplement parce que dans l'extrême nord, il y a une sorte de mutation qui s'opère. C'est-à-dire que les politiques officielles, les hommes politiques, qu'ils soient ceux du RDPC, qu'ils soient ceux de l'UNDP, du MDR ou du FSNC, j'y arrive,
oui,
qui sont considérés comme les partenaires du RDPC.
Voilà, je suis perdu là.
Monsieur Biya,
oui, je finis par m'y perdre, Joseph. Où voulez-vous en venir en deux phrases? Excusez-moi.
Ce que je vais vous dire, c'est que le Grand Nord,
oui,
aujourd'hui, en réalité, est dominé par les groupes de pression. C'est ces groupes de pression qui, en réalité, imposent le rythme politique. Et on a l'impression que M. Tiroma, en se positionnant, en prenant la position qu'il prend, en fait, veut rejoindre ce mouvement-là auquel il n'a pas adhéré dès le départ.
D'accord. Si je peux résumer votre pensée, c'est de l'opportunisme de la part de l'ancien ministre.
L'opportunisme.
Voilà.
Part,
bon, voilà. Au moins, j'ai compris. J'ai fini par
comprendre,
alors. Bon, Joseph, on aura l'occasion. On a encore quelques mois avant la présidentielle, théoriquement au mois d'octobre. Donc, on aura l'occasion, évidemment, de reparler de la vie politique camerounaise. Vous avez entendu Rodrigue, vous avez entendu Joseph. Vous voyez, fin observateur et une belle analyse chacun du climat ambiant, notamment après la candidature d'Issa Tiroma Bakary. On repasse au standard. La libre antenne passe très vite. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Et merci de nous écouter à Pala, c'est dans le sud-ouest du Tchad, et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour nous parler de la grève de la faim, entamée cette semaine par l'opposant succès Masra, une grève pour protester contre sa détention qu'il juge arbitraire.
Oui, nous convenons tous avec lui que son arrestation a été arbitraire, et pour ce faire, les voix se sont fait entendre, et jusqu'à présent, on constate que le gouvernement garde toujours sa position, et je pense qu'avec cette grève de faim, ce serait une étape importante dans la procédure de libération, en fait.
Ouais. Je rappelle qu'il est quand même poursuivi pour incitation à la haine, à la révolte, pour complicité de bande armée, incendie volontaire, complicité d'assassinat. Les charges sont lourdes, bienvenue.
Effectivement, ces charges sont lourdes. Nous connaissons tous la vie politique tchadienne. À tout moment, on peut manigancer. Si on se réfère bien aux archives, les archives datent depuis 2023. L'enseignement ne date pas d'aujourd'hui, et donc ce serait certainement un complot organisé par le pouvoir pour mettre Succès Masra en prison pendant ce moment si crucial. Et donc, pour moi, c'est une arrestation très, très arbitraire.
Bon, en tout cas, il est accusé d'avoir provoqué une tuerie le mois dernier, mi-mai, dans le sud-ouest du pays. Et c'était un massacre intercommunautaire. Et il est accusé puisque les autorités se basent sur un enregistrement audio qui date certes d'il y a 2 ans, mais dans lequel Succès Masra appelait la population à s'armer pour se défendre. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir appelé de Pala. Continuez à nous écouter. On salue tous ceux qui sont au Tchad. Merci à tous de votre fidélité. Bonjour Livingstone.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bangui, en Centrafrique, Livingstone. Vous êtes, attendez, je retrouve votre message WhatsApp. Vous êtes infirmier et vous souhaitiez témoigner des événements que vous avez vécus cette semaine, mercredi. Je rappelle qu'une trentaine de lycéens sont décédés dans une bousculade dans un lycée. Un transformateur électrique a explosé pendant les épreuves du baccalauréat. Il y a eu un mouvement de panique à cause de l'explosion. Les élèves ont tenté de fuir, évidemment. Et là, ce fut le drame. Une trentaine de morts, au moins 260 blessés. Et vous, Livingstone, vous êtes infirmier, je le disais. Et ce jour-là, vous étiez à l'hôpital.
Oui, c'est cela. C'était difficile de faire la gestion d'afflux massif des blessés, d'autant plus qu'il n'y a pas de mécanismes qui ont été mis en place en amont pour gérer ces blessés. Les Nous accompagnons des malades, la famille, tout le monde a envahi l'hôpital et c'est un peu difficile au personnel soignant d'intervenir ce jour-là. Il a fallu des minutes plus tard pour que les forces de l'ordre puissent intervenir et mettre un peu de l'ordre. C'est là que le personnel soignant a pu travailler pour pouvoir sauver les vies de ces patients-là.
L'hôpital, dit-on, a été envahi par la population.
Oui, l'hôpital a été envahi par la population, d'autant plus que toute la population est toujours stressée. Il y a ce stress post-traumatique qui est là après les événements politico-militaires que le pays a traversé. Donc la population est toujours en alerte. S'il y a une détonation, tout le monde est paniqué, tout le monde court partout. Donc c'est ce qui s'est arrivé la dernière fois et l'hôpital a été envahi. Donc c'est un peu difficile de faire la prise en charge des patients. Je pense que c'est quelque chose que les autorités sanitaires doivent tenir en compte pour qu'il y ait une sensibilisation à l'échelle nationale pour une bonne prise en charge psychologique de la population pour que prochainement des pareilles situations ne puissent pas arriver.
Bon, en même temps, personne ne peut prévoir qu'un transformateur électrique va exploser, qui plus est dans un lycée rempli d'étudiants. Il y avait 5000 lycéens qui passaient le bac, qui planchaient sur les épreuves du baccalauréat. 3 jours de deuil national ont été décrétés donc en Centrafrique après la mort de ces lycéens. Merci infiniment, Livingstone, de nous avoir appelés. Merci de votre confiance. Bonne journée, bon courage à Bangui. Si nous terminions en parlant du Gabon. Allez, Joseph, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Il y a un sujet qui fait débat en ce moment au Gabon, c'est le parti politique que souhaite fonder le nouveau président Brice Clotaire-Oligui Nguema. Vous ne comprenez pas pourquoi ça fait débat, pourquoi ça pose problème. Je précise quand même, Joseph, qu'il y a certains juristes, certains observateurs qui affirment qu'en créant son parti, le président devra perdre son mandat.
Bon, monsieur Juan Gomez, c'est leur interprétation. Mais le problème n'est pas là, il n'y a pas de débat à ce niveau. Le président Brice Clotaire-Oligui Nguema a été plébiscité par la majorité des Gabonais. Donc il a besoin d'avoir un parti politique pour appliquer
Son programme.
Le projet de société dont il a été élu.
Oui. Mais simplement, Joseph, je rappelle pour ceux qui ne sont pas gabonais que le président Oligui Nguema a été élu en tant que candidat indépendant.
Il a été élu en tant que candidat indépendant.
Il n'avait pas de parti politique au moment de l'élection présidentielle.
C'est clair, M. Juan Gomez.
Oui,
mais le fait de créer un parti politique, qu'est-ce qui dit qu'il va adhérer à ce parti politique-là? Il n'y a pas débat.
Il y a débat, parce que l'article 82 du Code électoral, je l'ai sous les yeux, dit que tout élu en qualité d'indépendant, ce qui est donc le cas de Brice Clotaire-Oligui Nguema, il a été élu en tant qu'indépendant, tout élu en qualité d'indépendant ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection.
Donc, mais M. Roy de Gomez,
oui.
Le fait de créer un parti politique, mais il ne ferait pas, il peut ne pas adhérer à ce parti politique-là.
Joseph, comment pouvez-vous être président fondateur d'un parti sans en être membre?
Je vais prendre un exemple chez vous en France.
Dites-moi.
Je crois bien, Emmanuel Macron avait été élu, je crois bien, en qualité, si j'ai bonne souvenance, en qualité d'indépendant. Et après, il a mis les marcheurs.
C'était déjà les marcheurs. Je vais me renseigner. Là, c'est une colle que vous me posez, effectivement, Joseph. Mais c'est bien de me poser des colles de temps en temps. Je n'ai pas réponse à tout. En tout cas, merci, Joseph. Et on continuera à parler, évidemment, de ce sujet, car, il défraie la chronique au Gabon. Le président Oligui Nguema, je crois, a donné rendez-vous aux Gabonais dans une dizaine de jours pour fonder ce parti politique. Merci à tous de votre fidélité, merci de votre confiance, de vos appels. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et on revient lundi, 8h10, TU.
PAC au pays de Banque Atlantique, l'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Dans 10 minutes, priorité santé. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
En direct de l'hippodrome de Longchamp à Paris pour une émission consacrée à la lutte contre le sida.
Oui, hein, la jeunesse, la musique, la lutte contre le sida, déjà beaucoup de mouvements ici dans l'ouest de Paris pour ces trois jours de festival, d'atelier. Et nous, on va ouvrir le micro de Priorité Santé à des acteurs de la lutte contre le VIH. Un travail de terrain avec des intervenants du Cameroun, de Mauritanie, du Congo-Brazzaville. On va décrire les projets, les réalisations, comment l'équipe de Solidays travaille avec ces associations. Alors il y a bien sûr la fête, c'est important, mais aussi...